Bienvenue pour votre chronique Droit pour tous, une émission qui rend le droit accessible à tous avec Dina Samaha.
Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Marine Coutelec, chef de service de France Victimes, pour nous parler des violences conjugales. Bonjour Marine.
Bonjour.
Alors, comment peut-on définir les violences conjugales ?
Alors, les violences conjugales se caractérisent par une relation de domination au sein du couple. Les femmes en sont les premières victimes. Alors, évidemment, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et la violence conjugale, on peut aussi la retrouver dans les couples homosexuels. Mais statistiquement, ce sont principalement les femmes qui sont victimes de ce type de violence. Donc, pour comprendre la violence conjugale, il est vraiment important de la différencier du conflit de couple. Le conflit, on pourrait le définir comme un désaccord, une opposition ponctuelle sur un sujet particulier. Il met en présence deux personnes qui se trouvent alors sur un pied d'égalité. Elles sont toutes les deux en capacité, l'une et l'autre, de s'exprimer, de faire valoir leur point de vue. Du conflit de couple se dégagent les notions de compromis, de négociation, de confrontation, d'évolution des idées. Ce conflit, il a un début et il a une fin. Et il est présent dans toutes les situations de couple.
Alors, quelle est la différence avec les violences conjugales ?
Alors, en revanche, la violence conjugale, elle se caractérise par un rapport inégalitaire, celui d'un dominant sur un dominé. Et les protagonistes ont toujours la même place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de changer. Un coup, on est dominant, un coup, on est dominé. Non, le dominant sera toujours le même et le dominé, toujours le même. Ces violences, elles sont déclenchées par l'auteur sous n'importe quel prétexte et elles visent à vérifier et à réaffirmer sa position de domination sur la victime. Pour la victime, chaque crise est un renoncement, un affaiblissement. Ce qui est important de comprendre, c'est que la violence conjugale n'est pas le résultat d'un conflit, c'est un processus d'emprise. Il est question d'une recherche de pouvoir sur l'autre, de satisfaction de ses attentes au détriment de l'autre. Le recours à la violence a donc pour objectif le contrôle et la domination de l'autre. La victime est mise sous emprise. L'emprise, c'est l'appropriation de l'autre qui porte atteinte à sa liberté. Et pour asseoir son emprise sur la victime, le conjoint violent commence par la séduire, ce qui donne l'illusion d'un échange affectif. Bien souvent, on a des victimes, la plupart du temps des femmes, qui nous disent qu'au début de la relation, elles ont eu l'impression de trouver le prince charmant, d'avoir la relation de couple idéale. Et c'est cette phase de séduction, en fait, qui donne cette illusion à la victime. Cette séduction, elle se traduit par des attitudes protectrices, rassurantes. Et la jalousie est amenée comme une preuve d'amour. Par exemple, le conjoint violent va interdire à sa compagne de mettre un décolleté ou une jupe qu'il va juger trop courte. Mais il va justifier ça en lui disant qu'il aime trop et qu'il ne pourrait pas supporter que d'autres hommes aient un regard sur elle. Donc c'est vraiment cette jalousie qui est comme une preuve d'amour. Et pour le coup, la victime se dit « Ah ben, j'ai de la chance d'être autant aimée, d'être si bien aimée par quelqu'un ». La femme, petit à petit, est déstabilisée et elle va perdre peu à peu toute estime d'elle-même. Elle est progressivement privée de tout libre arbitre et de tout regard critique sur sa situation. Elle va finir par trouver normale la façon dont elle est traitée. L'emprise va l'empêcher de se révolter, va la rendre obéissante et va l'inciter à protéger son agresseur et à l'absoudre toute violence. On constate aussi que certaines personnes sont plus sujettes à l'emprise que d'autres. Et ça peut s'expliquer par l'enfance, les relations passées, par rapport à ce qu'elle a vécu précédemment. Ce mécanisme d'emprise, il se met en place dès le début de la relation, avant même l'installation de la violence. Le pouvoir et le contrôle sont le but recherché par l'agresseur. La violence est un moyen, elle sert à les maintenir.
Donc maintenant qu'on sait ce que c'est cette emprise que peut avoir une personne sur une autre, quelles sont les différentes formes de violence qu'on peut observer lors de ce genre de relation ?
Alors, on va distinguer 5 formes de violence principalement. Alors, la plus connue, bien sûr, c'est la violence physique. Mais avant la violence physique, il y a bien souvent de la violence verbale. Donc la violence verbale, elle va se traduire par des injures, par des menaces, peut-être parfois des propos un peu sarcastiques aussi. Donc ce sont des mots qui atteignent la victime et qui visent à créer un climat de tension, de peur et d'insécurité chez la victime. Aux côtés de cette violence verbale, on va trouver aussi la violence psychologique. psychologique, qui est plus diffuse, qui passe davantage par des attitudes. Mais c'est la forme la plus répandue des violences. Et elle a pour effet de dénigrer, de dévaloriser, d'humilier la personne en tant qu'individu. Cette forme de violence est destructrice et difficile à repérer parce qu'elle est aussi subjective et qu'elle peut prendre plusieurs significations en fonction du contexte et de la personne qui l'a subie. Donc violence verbale, violence psychologique, évidemment violence physique aussi, c'est la forme qui est la plus connue, qui est la plus visible, mais qui n'est pas systématiquement présente dans toutes les violences conjugales. Alors c'est celle que l'on connaît davantage, c'est vrai, mais il y a beaucoup de situations où finalement les victimes sont victimes de violences psychologiques et pas du tout de violences physiques. On trouvera aussi la violence économique qui est un petit peu moins connue et qui va consister à priver la victime de toute autonomie financière, ce qui veut dire que même si elle travaille, même si elle a des revenus, elle ne va pas y avoir accès. Et cette absence d'autonomie financière va créer un frein au départ, puisqu'effectivement la victime va se dire « mais comment est-ce que je peux partir si je n'ai pas du tout d'argent à ma disposition ?» Donc c'est un moyen aussi pour le conjoint violent de la maintenir dans cette relation de couple, dans cette relation d'emprise. Et enfin, on trouve les violences sexuelles. Donc la violence sexuelle, elle est rarement dénoncée et pourtant, elle est souvent présente. Alors ça s'explique surtout par le fait que la sexualité dans le couple est encore associée au devoir conjugal et ça ne facilite pas sa dénonciation. Par contre, une victime qui va être entendue par les forces de l'ordre, maintenant, il y a ce qu'on appelle un canevas, une trame d'audition, qui va pouvoir balayer les différentes formes de violence. Donc même si la victime ne la dénonce pas spontanément, la question de la violence sexuelle va lui être posée.
On a vu des différentes formes de violence, mais les études ont constaté qu'il y a un certain cycle pour les violences. Quel est ce cycle ?
Alors effectivement, hein, il y a le cycle des violences qui est composé de 4 phases. La phase de tension, la phase de crise, la phase de justification et enfin la phase de la lune de miel. Alors on commence par le climat de tension. Hein, il s'agit d'une accumulation des tensions par des paroles, par des attitudes. Donc un climat qui s'installe et qui est palpable. Et la victime de violences conjugales sait qu'une crise est imminente. Donc elle va tout faire pour éviter cette crise. Malheureusement, cette crise aura bien lieu. C'est l'explosion, c'est l'épisode de violence qui a lieu à ce moment-là. C'est lors de cette phase que la victime va dénoncer les faits ou qu'elle va quitter son conjoint. C'est au moment où il y a la crise, où il y a l'explosion des violences. Ensuite viendra le temps de la justification, donc l'agresseur va se déresponsabiliser de son acte de violence en culpabilisant la victime, ce qu'on appelle l'inversion de la culpabilité. Alors par exemple, il va lui dire « c'est vrai qu'il y a eu cette violence qui a eu lieu, mais en même temps quand j'ai débauché, tu n'étais pas à la maison et tu sais que je veux impérativement que tu sois à la maison quand je rentre du travail ». Et la victime va se dire « ah ben tiens, c'est vrai, en fait cette crise elle aurait pu être évitée, c'est de ma faute, je sais très bien que je dois être à la maison, je n'y étais pas, j'ai ma part de responsabilité ». Donc voilà ce que c'est l'inversion de la culpabilité. Ensuite viendra la lune de miel. Donc là, l'agresseur va s'excuser, il promet de ne plus recommencer, il devient affectueux, attentionné. C'est à ce moment-là qu'il y a le bouquet de fleurs, qu'il y a l'invitation au restaurant ou pourquoi pas les vacances. La peur fait alors place à l'espoir. Le couple peut recommencer à faire de nouveaux projets et la femme retrouve son conjoint tel qu'elle a connu au début de la relation. Donc il y a l'espoir d'un renouveau. Elle se dit que finalement, c'était peut-être qu'une seule fois ou une fois de plus, mais que ça sera certainement la dernière. Elle y croit, elle veut donner une chance à son couple. Elle a l'espoir que tout aille mieux pour l'avenir. Et du coup, si elle a dénoncé les violences avant ou si elle a quitté son conjoint, c'est durant cette phase qu'elle va revenir au domicile ou qu'elle va chercher à retirer sa plainte. Donc ces différentes phases peuvent mettre des semaines ou des mois à se succéder. Au fil du temps, ce cercle vicieux n'est plus équilibré, l'estime de la victime s'amenuise, la domination s'intensifie et l'agresseur a de moins en moins besoin de mettre en place la phase de justification et la phase de la lune de miel. Il a moins besoin de se faire pardonner. Les périodes de lune de miel sont de plus en plus courtes jusqu'à totalement disparaître pour laisser uniquement les phases de violence.
Et vous, en tant que France Victime, votre association, qu'est-ce qu'elle fait auprès des victimes de violences conjugales ? Quels sont ces différents axes de travail ?
Déjà, on va proposer aux victimes de violences conjugales ce qu'on propose à toutes les victimes que l'on reçoit au sein de l'association. C'est-à-dire un accueil, une écoute qui est bienveillante, qui est empathique et qui va permettre aussi à la victime non seulement d'avoir un espace pour pouvoir déverser, dire tout ce qu'elle ressent, mais aussi à l'accueillant de pouvoir identifier ses besoins et de quelle manière on peut l'aider. Donc cette phase, elle est vraiment importante. Il y aura aussi la possibilité de lui donner des informations juridiques, notamment par rapport à la procédure pénale. Donc à l'association, il n'y a pas d'avocat, mais il y a des juristes qui peuvent faire en sorte de rendre plus accessible ce qui se passe, le langage judiciaire, la façon de fonctionner. Il y aura une phase d'orientation aussi vers tous les acteurs institutionnels, associatifs, adaptés qui vont pouvoir aider la victime et répondre à l'intégralité de ses besoins. On va pouvoir lui proposer un accompagnement tout le long de la procédure, un accompagnement qui peut être physique, notamment à l'audience, et également un soutien psychologique. Alors, ce qui est important aussi de bien prendre en considération, c'est que quand on parle des victimes de violences conjugales, on parle maintenant aussi des enfants qui sont co-victimes des violences. Et il est important d'agir, et je dirais même indispensable d'agir le plus rapidement possible auprès de ces enfants pour déconstruire les schémas, notamment par le biais du soutien psychologique, puisqu'il faut que les enfants comprennent que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, les violences dans ce couple parental sont interdites par la loi et que ce n'est pas comme ça que doit fonctionner un couple. Et agir dès à présent, dès le plus jeune âge, c'est permettre de lutter contre la violence conjugale 10, 15, 20 ans plus tard, quand l'enfant sera devenu un ado, un jeune adulte ou un adulte et qui sera dans des relations de couple. Il faut éviter absolument qu'il reproduise, soit parce que la petite fille va pouvoir peut-être se dire que si son compagnon est violent avec elle, c'est normal parce qu'elle a vu maman subir des violences et que finalement ça doit se fonctionner comme ça. Et le petit garçon devenir violent vis-à-vis de sa compagne en se disant c'est comme ça qu'on aime, moi j'ai vu papa faire. Donc il faut très rapidement pouvoir déconstruire ces schémas-là. Donc là, ce sont les missions, on va dire, classiques de l'association, mais également il y a des missions un petit peu plus spécifiques. Alors d'abord, on va pouvoir proposer une intervention sociale auprès des victimes de violences conjugales. On a le dispositif des intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie qui peuvent très rapidement, après les faits, intervenir auprès des victimes sur saisine des forces de l'ordre pour leur proposer un accompagnement social à court, moyen terme qui va se traduire par exemple à l'aide au logement, à l'aide universelle d'urgence, donc une aide financière, à des orientations après pour une prise en charge plus longue vers les assistantes sociales de secteur, par exemple, enfin, pour voir aux besoins de la victime, à ses besoins sociaux. Donc ça, c'est le premier dispositif que l'on propose. On va aussi, sur réquisition judiciaire, mener une évaluation victime qui va permettre de faire une photographie à l'instant T de la vie de la victime dans tous ses aspects, pour faire remonter un maximum d'éléments à la justice, et aussi pouvoir faire remonter la parole de la victime, quelles sont ses attentes, quel est son positionnement vis-à-vis de l'auteur, est-ce qu'elle souhaite bénéficier d'un dispositif de protection. Ces dispositifs de protection, ce sont le téléphone grave danger et le bracelet anti-rapprochement, donc ce sont des dispositifs que l'on porte dans leur versant victime, donc on va procéder à des évaluations pour déterminer l'opportunité de ces dispositifs, on va accompagner les victimes au moment de la remise, faire tout le suivi de la pédagogie de la mesure, et l'accompagner aussi au moment de la restitution du dispositif. Donc on va aussi agir comme un lien entre la victime et l'institution judiciaire le temps de ces mesures. Et on va également informer la victime de la sortie de détention de son ex-conjoint violent afin qu'elle ait connaissance de cette information.
Bien, je vous remercie Marine et à la prochaine.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Vous venez d'écouter l'émission Droit pour tous avec Dina Sama. À bientôt sur RLP.